Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir. Alors, je suis content de vous retrouver après une longue période, notamment pour les vacances. Et là, avec des petits changements qu'il y a en ce moment, hein, pour information, la radio est en train de se délocaliser. Donc, on fonctionne avec un système de fortune. Et maintenant, on a mis en place aussi une radio professionnelle de façon à avoir une musique continue et permettre aux animateurs de prendre les directs d'eux-mêmes. Donc ce soir, c'est une toute nouvelle émission qui sera animée avec Jean Gracier. Donc comme le titre l'indique, c'est pour parler de la spiritualité avec toutes les questions qui sont posées à ce sujet. Donc j'accueille Jean. Jean, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je suis là. Bonsoir, je suis là, Cédric.
Oui, bonsoir. Alors merci pour cette émission qui, je le rappelle, va être mensuelle. Parce que c'était... Tout d'abord, au début, une idée avec vous, hein, qui m'avait proposé justement de créer une émission à ce sujet.
Oui, oui.
Voilà, parce que vous avez très souvent des questions d'internautes et de personnes qui se posent des questions sur ce qu'est la spiritualité. Et comme vous m'avez indiqué au téléphone, vous aviez envie en fait de répondre à ces questions, mais plutôt que de répondre à une personne, de répondre à plusieurs personnes, parce que très souvent, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent le même genre de questions. Voilà.
Effectivement.
Alors, justement, par rapport à ces questions et cette idée d'émission, ça vous est venu en fait comment ?
Ben, c'est-à-dire que ma femme et moi, on enseigne ce que maintenant les gens connaissent, et Ho Oponopono, cette philosophie qui nous vient d'Hawaï, hein, depuis de nombreuses années maintenant.
D'accord.
Et c'est vrai qu'au fil des stages, au fil des conférences que nous donnons un peu partout en France, en Suisse, enfin on est allé un peu partout, en Espagne, au Canada. Et c'est vrai qu'au fil de ces conférences et de ces stages, et des livres que nous avons écrits, bon, beaucoup de gens posent des questions parce qu'ils veulent en savoir un peu plus, bien entendu ça. Donc il y a des questions qu'on m'a posées et que je prends plaisir à y répondre dès que j'ai le temps. Et comme je garde ces questions, ben, il m'est venu l'idée de faire cet e-book gratuit que j'ai lancé il y a quelque temps. Et c'est vrai que c'est intéressant de répondre à des questions comme ça, parce que ça permet d'aller un peu plus à fond, ça me permet moi aussi de creuser un peu les questions et d'aller un peu plus à fond, quoi. Voilà. Donc j'ai sorti cet e-book et j'espère qu'il a... Enfin, j'ai vu qu'il poursuit son petit bonhomme de chemin. Et bien sûr que cette émission est intéressante parce que c'est pour répondre aux questions que des gens peuvent se poser à ce sujet. Voilà.
D'accord. Alors, juste pour informer les auditeurs qui nous écoutent actuellement, vous pouvez poser vos questions en direct, hein, par le système qui est prévu à cet effet sur le site www.radioterrazen.net. Vous cliquez sur le bouton « Poser une question ». Et vous indiquez avec votre prénom et votre question que vous voulez poser justement à Jean Gracier sur la spiritualité. Je dis bien vraiment des questions sur la spiritualité, pas sur un autre domaine qui n'aurait rien à voir. Voilà. Alors là, on va commencer un petit peu avec des questions que vous avez très souvent par rapport à ce qu'on retrouve dans votre e-book. Alors très souvent, on entend des fois des gens qui demandent qu'est-ce que ça signifie d'être créateur à 100%.
Ah, d'être créateur à 100%. Ça, c'est la première question, c'est le premier principe qui est très important de cette philosophie que nous enseignons, être créateur à 100%. Bien, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, on va changer un petit peu ce que nos croyances nous avaient amené à penser, et qui faisait que dès qu'il nous arrive quelque chose, eh bien, on se prend pour victime, hein, et donc il y a un coupable quelque part. En fait, c'est faux, puisque il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de victime. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a enseigné, mais en fait, on s'aperçoit que, en fait, on est créateur de tout. On est créateur de tout ce qui nous arrive par le fait des. Alors, c'est ce que nous enseignons. En fait, tout ce qui nous arrive est créé par des mémoires que nous avons. Rien n'arrive comme ça par hasard. Et ce sont toujours des mémoires qui nous arrivent. En fait, c'est aussi, on peut dire aussi d'une autre manière, c'est un peu notre âme qui nous parle à travers tout ce qui se passe autour de nous, mais tout ce qui se passe aussi dans notre corps, hein. Donc une maladie, par exemple, c'est aussi un langage de l'âme et tout ce qui nous arrive à l'extérieur, hein. Et quand on intègre ce principe, c'est fabuleux parce que du coup, eh bien, on sort du rôle de victime dans lequel on s'était mis bien involontairement, puisque c'est ce qu'on nous a appris, hein, ne serait-ce que par nos religions, n'importe laquelle des religions que nous connaissons, eh bien, nous installe dans ce rôle de victime. La réalité, c'est que nous ne sommes pas victimes, nous sommes bien responsables de tout ce qui nous arrive. Hein. Voilà. Alors, voilà, on peut. Maintenant, je pourrais développer, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir d'autres questions sur ce sujet. Hein. Voilà.
Oui, parce que justement, là, j'avais vu par exemple qu'on dit qu'on est créateur de 100%. Donc là, notamment, la question là, que j'ai vue aussi, c'est en cas d'accident de voiture, ça veut dire qu'on est 100% responsable.
Eh bien, quand on a un accident de voiture, c'est vrai que nous vivons dans une société qui reconnaît qu'il y a un coupable. Alors, il y a un coupable à 60%, à 80%, etc. Ça, c'est la société qui est obligée de mettre des règles. En réalité, si j'ai un accident de voiture, je suis responsable de cet accident. Je ne cherche pas à savoir qui est passé au rouge, qui est passé au vert. Bien sûr que la société nous oblige à aller chercher. Mais en fait, la raison est que si j'ai un accident de voiture, c'est que si je cherche bien au fond de moi, dans ma vie, cet accident tombe à point nommé. Et il me raconte beaucoup de choses, cet accident. Il me dit quelque chose. Mais de la même manière, l'autre antagoniste de l'accident, si c'est quelqu'un qui est passé au rouge, par exemple à un feu rouge, je vais lui dire, mais tu es aussi responsable à 100% de ce qui t'est arrivé. Hein? On sort, si vous voulez, de ce paradigme, de ce concept dans lequel nous a mis notre société. Hein? Bien sûr qu'il faut suivre les règles de la société, hein? Sans quoi ça serait compliqué. Mais si tout le monde intégrait le fait que nous sommes responsables, nous n'aurions pas besoin de toutes ces règles. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'en
Oui,
est pas encore là.
on est sur le
Malheureusement,
chemin.
mais ça vient. Ça vient. Parce que cette idée-là fait son chemin, que nous sommes tous responsables à 100% de tout ce qui nous arrive. Le bouddhisme le dit et bien d'autres enseignements spirituels.
D'accord.
D'accord.
Vous parliez tout à l'heure de mémoire. Alors, d'où elles viennent, ces mémoires?
Ah, les mémoires. Les mémoires viennent de. Ça, c'est une grande question. On peut en parler pendant des heures, mais brièvement. Les mémoires, elles viennent tout d'abord des expériences de notre vie. Hein, dans notre vie, quand nous avions 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a eu un accident, on a eu un traumatisme, quelque chose qui nous a marqué fortement. On va en garder la mémoire, bien sûr. Et si on en garde la mémoire, eh bien inconsciemment, par exemple, je ne sais pas, si vous avez eu un accident de voiture, puisqu'on était dans cet exemple, un tel carrefour, par exemple, à chaque fois que vous allez passer devant ce carrefour, vous n'allez pas être très à l'aise. Hein, cette mémoire va ressurgir un petit peu. Hein. Mais là, on est au niveau conscient. C'est-à-dire que vous allez vous souvenir de l'accident. En réalité, les mémoires, la plupart, eh bien, elles agissent, mais elles sont inconscientes. Elles sont inconscientes. Alors, Je parlais dans des expériences de vie dont on peut se rappeler. Mais une expérience dans notre petite enfance, généralement, on ne s'en souvient plus. Mais on a pu vivre un traumatisme. Quand nous avions 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 6, 7 ans, on a pu vivre quelque chose de fort. Et un enfant, lui, il ne sait pas s'exprimer. Donc, le traumatisme, il le vit intérieurement. Mais ça va rester dans les cellules. Ça va rester, cette mémoire. Et cette mémoire, elle va, ou non, mais elle risque de ressurgir à un moment dans la vie, de se réactiver, en quelque sorte, hein, et de reproduire un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on peut voir, et ça, par exemple, si vous avez lu des livres de Françoise Dolto, elle l'explique, ça. Elle a beaucoup analysé, beaucoup étudié, hein, les mémoires de l'enfance. Mais aussi les mémoires intra-utérines, quand nous étions dans le ventre de la mère, toutes les émotions environnantes, les émotions qu'a connues la mère, principalement, mais aussi le père, mais aussi l'environnement. L'enfant qui est en train de se constituer, lui, il va programmer toutes ses mémoires. Il va les exprimer dans la vie. Cette période-là, je l'ai étudiée en étudiant les séminaires de Claude Sabat, docteur Sabat. Il appelle ça le projet sens. C'est une période qui recouvre les 9 mois de la grossesse, mais qui est plus large que ça, puisqu'elle va bien avant la conception et bien après la naissance, disons à peu près environ 30 mois. Et pendant cette période, toutes les émotions que le bébé, en cours de formation, mais que le bébé est déjà formé, mais qui est encore bébé, eh bien, toutes les émotions environnantes, elles vont se transformer en mémoire inconsciente cette fois, et qui vont s'exprimer dans la vie. C'est fabuleux d'ailleurs, quand on étudie ça, je l'ai bien étudié, puisque j'ai fait, pendant un temps, j'avais le temps, je faisais une conférence là-dessus, de voir que tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait, eh bien, on retrouve l'origine dans cette période-là. Donc là, il y a des mémoires inconscientes. Et puis les mémoires inconscientes, on va les trouver aussi quand on étudie la psychogénéalogie. La psychogénéalogie vous indique que vous êtes cible de votre arrière-grand-oncle, ou de votre grand-mère, ou d'un ancêtre qui est dans l'arbre généalogique. Hein ? On l'explique très très bien. Ça a été démontré, et c'est une science. Non, c'est pas une science, mais disons que c'est une psychothérapie, hein, puisqu'on peut travailler sur la psychogénéalogie et découvrir des mémoires dont on peut se libérer ensuite. Hein. Et là, ce sont des mémoires inconscientes, bien sûr. Et puis pour ceux qui reconnaissent que nous avons vécu d'autres vies, bien sûr que toutes ces vies que nous avons connues avant celle que nous vivons maintenant, eh bien, nous arrivons avec des mémoires de toutes ces périodes qui sont innombrables. Hein. Alors voilà, les mémoires viennent de tout ça. Mais en réalité, avec l'expérience, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, nous avons en nous, chacun d'entre nous, nous avons toutes les mémoires de l'humanité, toutes les mémoires de la création. Mais nous sommes venus dans cette incarnation pour exprimer une certaine partie d'entre elles. Et c'est ce qui fait notre personnalité à chacun. C'est ce qui fait que nous sommes uniques. Ce sont des mémoires que nous sommes venus exprimer dans cette vie. Alors les mémoires, ben après, ce sont les qualités, les défauts, c'est tout ça, ce sont nos ondes d'ombre, et c'est ce qui constitue chacun d'entre nous, notre personnalité. Oui. Voilà, brièvement, voilà ce que je peux dire sur ce qu'on peut dire sur ce que j'appelle les mémoires. Voilà.
D'accord.
Alors les mémoires, c'est aussi, bien sûr, les croyances. Toutes les croyances, nous sommes faits de croyances. Hein. Mais des croyances, mémoires, un a entraîné l'autre. C'est, vous voyez, elles font partie d'un même concept, en quelque sorte.
D'accord. Voilà. Et justement, les mémoires, est-ce que c'est forcément négatif?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire négatif? Qu'est-ce que ça veut dire positif? Alors, ça, ce sont deux mots dont j'ai perdu le sens. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, quelque chose qui serait négatif, quelque chose qui serait positif. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui serait négatif? Quelque chose qui ne me fait pas plaisir? Quelque chose qui me cause de la souffrance, de la douleur, hein, c'est ça?
Oui,
on peut
c'est
le ça. Définir comme ça.
Oui.
En fait, ce qui me cause de la douleur, peut-être que c'est un langage de mon âme qui me parle. et qui est venu m'apprendre quelque chose à travers cette souffrance de ce que j'appelle qu'on appelle négative. Ça veut dire que quelque chose qui est négatif dans ma vie, eh bien, quand j'ai compris ce que c'est, je vais voir le positif, l'autre face. Tout ce qu'on appelle négatif, je mets tout ça entre guillemets, ces mots, parce que ce sont des mots que je n'emploie plus. Eh bien, tout ce qui apparaît comme négatif, eh bien, fait partie d'un tout dans lequel on va trouver aussi le positif. Hein. C'est un tout. Donc, ce qui est négatif, je ne sais pas si un jour ce sera positif. Vous voyez, alors ça, c'est important. Vous avez dit quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup dans mes stages, de comprendre ce qui est négatif. Parce qu'en fait, vous savez, ce sont des mots que le mental emploie. C'est le mental qui emploie, qui va qualifier quelque chose de négatif ou qualifier quelque chose de positif. C'est toujours le mental. Le mental, lui, qu'est-ce qu'il sait de tout ça? Il ne sait pas ce qui est positif ou négatif. Voilà, donc d'ailleurs j'ai oublié un peu votre question là. Ah bon. Je suis parti sur l'explication du négatif et du positif. J'ai oublié votre question, Cédric.
Oui, c'était en fait au niveau des mémoires.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est forcément négatif?
Oui, oui, bien sûr. C'est un peu ce que je disais. En fait, certains appellent des mémoires négatives, des mémoires erronées. En fait, une mémoire n'est ni positive ni négative, elle est juste mémoire. Elle est juste mémoire. Ça veut dire que nous n'avons pas des mémoires positives ou des mémoires négatives. Quand on pratique Ho Oponopono, puisque c'est ce que j'enseigne actuellement, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est que quand on travaille sur les mémoires, mais travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer les mémoires ou les effacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever ces couches que nous avons sur nous, qui sont formées de mémoires, de croyances, pour qu'un jour apparaisse, et c'est ça la finalité de la spiritualité, pour qu'apparaisse un jour l'être de lumière que je suis, l'être de lumière que nous sommes tous, sans exception, sans exception. Et c'est ça, nettoyer les mémoires, alors qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, ça n'a aucune importance. L'important, c'est juste de nettoyer les mémoires. Parce que c'est ça la finalité de notre incarnation à tous. C'est de faire ce travail, mais ce travail, c'est un travail dans la joie, au quotidien, nettoyer ces mémoires, pour qu'apparaisse cet être de lumière que nous sommes à l'intérieur, pour qu'apparaisse cette divinité que nous sommes. Et c'est ça la finalité de la spiritualité. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si d'autres personnes puisse dire autre chose, mais pour moi, c'est ça, la finalité de la spiritualité. Donc, nettoyer les mémoires, donc nettoyer tout ce qui forme cette personnalité pour qu'apparaisse cet être de lumière. Voilà.
D'accord.
D'accord.
Alors, sinon, c'est comment on peut nettoyer ces mémoires?
Alors, bon, mais nettoyer les mémoires... Alors, voilà, ça c'est vraiment la bonne question, c'est la question clé en fait. Comment nettoyer les mémoires? Alors, quand on enseigne Ho Oponopono, et c'est ce que nous faisons depuis pas mal d'années, il faut que je compte d'ailleurs, ça fait 8 ou 9 ans maintenant, eh bien, on emploie un mantra qui est constitué de 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Bon. Vous savez, cette philosophie nous vient d'Hawaï. Les Hawaïens, quand ils utilisaient cette Ho Oponopono de façon traditionnelle depuis des siècles, ils n'ont jamais utilisé de mantra. Eux, ils utilisaient la prière. Ils utilisaient la prière, plusieurs prières. Et surtout, ils vivaient dans la conscience de ce qu'apportait cette philosophie. Ils vivaient dans cette conscience-là. Et c'est quoi vivre dans la conscience de Ho Oponopono? Ben, c'est justement par le premier principe que vous avez énoncé quand vous avez commencé tout à l'heure, c'est de reconnaître notre responsabilité à 100% de tout ce qui nous arrive. Et deuxièmement, c'est d'être dans l'acceptation de tout. D'être dans l'acceptation de tout ce qui arrive. Accepter ne veut pas dire plier se plier devant tout le monde, être fataliste et d'accepter, c'est-à-dire de devenir victime. Non, non, non. Accepter, c'est accepter. Il arrive quelque chose, je ne vais pas me rebeller. La chose est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir, mais on accepte. Quand on a une maladie, si on commence à lutter et à être dans le combat, je ne crois pas qu'on risque de guérir. Pour moi, c'est d'abord d'accepter, puis d'aimer cette maladie. Ça, c'est plus difficile peut-être, mais bon, on en parlera peut-être plus tard ou une autre fois. D'abord d'accepter, puis ensuite d'être sans jugement. Ben oui, ça va de soi. Il m'arrive quelque chose, je suis sans jugement. Dès qu'on est dans le jugement, c'est le mental qui intervient. Quand je suis dans la non-acceptation, c'est le mental qui intervient et qui se rebelle. Mais quand je suis dans l'acceptation, le mental se tait. Si je suis dans le non-jugement à 100%, le mental se tait. Et puis d'être dans la gratitude, bien sûr, il m'arrive quelque chose, je suis sans jugement, et je remercie. Je remercie ce qui m'est arrivé. Et je remercie les mémoires de m'avoir créé cela. Ça me donne l'occasion de les nettoyer parce que je ne savais pas que j'avais ces mémoires en moi. Vous voyez ? Et puis cinquième étape, en quelque sorte, c'est le lâcher prise total. Lâcher prise total. Voilà. Mais quand on est dans cette conscience de ces cinq étapes, c'est moi qui les ai nommées comme ça, mais pour moi, c'est vrai, c'est ça, quoi. Mais quand on est dans cette conscience-là, et quand on vit au quotidien, continuellement, dans la responsabilité de ce qui nous arrive, dans l'acceptation, dans le non-jugement, dans le lâcher-prise, eh bien les mémoires se nettoient automatiquement. Vous voyez ? Les mémoires ne nous affectent de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. C'est ça, nettoyer. Alors bien sûr qu'on peut employer le mantra et ces quelques mots que j'ai dit tout à l'heure. On peut le faire. C'est très bien. Et ça marche. Mais ça donne un effort. Il faut tout le temps dire ces mots. Ça marche, c'est vrai. Mais là où ça marche magnifiquement, c'est d'être dans cette conscience. Et là, d'être dans cette conscience, eh bien, ça transforme votre vie complètement. Ça transforme complètement votre vie. Parce que le mental, lui, à ce moment-là, il est juste, juste à sa place. Et il ne s'occupe plus de gérer votre vie à votre place. Vous voyez ? Parce que c'est ça la vraie spiritualité pour moi. C'est que le mental reste exactement à la place qui lui convient. Mais le mental cesse de diriger votre vie.
D'accord.
D'accord.
Voilà. Alors, je vais loin, là.
Oui.
Oui.
Alors parce que je ne sais pas de votre côté, mais des fois j'entends un écho. D'ailleurs, on m'a retourné que des fois on m'entend en écho. Donc je ne sais pas si ça vient de vos enceintes.
Bon, je ne sais pas.
Voilà. Bon, on va faire comme ça pour ce soir. Donc, pour rappel, vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Donc, n'hésitez pas, à tous les auditeurs qui nous écoutent, de poser votre question sur le site www.radioterrazen.net et de cliquer sur le bouton Poser une question. Alors, justement, donc là, on a parlé un petit peu du nettoyage et tout. Alors, comment ça se déroule, en fait, ce processus de nettoyage, exactement ?
Alors, j'en ai un peu parlé. C'est-à-dire que quand je le vois avec tous les gens que nous rencontrons dans les stages, par exemple, des gens qui ne sont pas encore avertis de cette manière de vivre, en quelque sorte. Parce que c'est un art de vivre, hein, en fait, c'est pas... Alors, bien sûr qu'au début, eh bien, on va dire, dès que nous avons quelque chose de désagréable, quelque chose qui me contrarie, quelque chose qui m'affecte, eh bien, on va dire ces mots, je suis désolé, ça veut dire que je reconnais que je suis responsable à 100%. Je te demande pardon, parce que le pardon, on en parlera, c'est très important. C'est la clé, en quelque sorte, le pardon. Je te remercie et je t'aime. Si on dit ces mots comme un mantra, c'est la force du mantra agit de toute façon. Hein. Même si on ne connaît pas bien le sens des mots, la force du mantra va agir. Il y aura un effet. Il y aura quelque chose qui se passera. Et ça sera très bien. C'est déjà un bon début. Hein? C'est déjà un bon début. Mais le nettoyage, en fait, c'est vivre dans cette conscience-là. Et je répète, hein, pour moi, je ne sors pas de là parce que, en fait, si vous voulez, avec ma femme, on en est arrivé à cette conclusion, enfin, cette manière de vivre avec l'expérience de plusieurs années. C'est que si on est dans cette conscience que nous sommes responsables à 100%, ce qui est le plus important, c'est le premier principe, et c'est vraiment le plus important. Et ensuite que je suis dans l'acceptation, sans jugement, et que je suis dans un parfait et total lâcher prise, j'ai plus à me préoccuper de nettoyer telle ou telle mémoire. D'ailleurs, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une mémoire comme ci? Est-ce que c'est une mémoire qui vient de là? On n'en a pas, on n'a pas à s'en occuper. Juste de vivre dans cette mémoire, dans cette conscience-là, parce que c'est un niveau de conscience. Et comment dire, faire ce nettoyage, c'est une manière d'élever notre vibration. Voilà, ça, c'est ça aussi la spiritualité. Et élever sa vibration nous rapproche de notre divinité. Vous voyez, c'est ça. Donc le nettoyage, ben, c'est ça. Voilà. Hein. On va commencer par dire les mots. Et c'est bien de le continuer de le faire tout le temps. Hein. Mais ensuite, c'est plus nécessaire. Il m'arrive de plus en plus rarement de dire les mots. C'est plus nécessaire. Je le dis de temps en temps pour, comme ça, parce que c'était le début. Au début, on fait ça. Et quand on est dans cette conscience, là, voilà, c'est une autre manière de vivre. Quoi. Hein, voilà. Ça, c'est pour moi la vraie spiritualité. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de dogmes, de règles, de directives précises. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est juste de vivre dans cette conscience-là. Et je le sens en moi, c'est que chaque jour, ma vibration s'élève. Et donc, maintenant, il arrive aussi qu'elle retombe. Hein.
Oui.
Et parce que je suis un humain comme tout le monde, malgré tout. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement.
Oui, avec les aléas de la vie.
Voilà ce que je pouvais en dire là, pour ce qui est de ce nettoyage des mémoires.
D'accord.
Bien sûr qu'on peut en. Alors, dans les stages, c'est vrai que c'est ce qu'on dit aussi. Bon, on en dit un petit peu plus des fois, mais c'est la répétition aussi. Hein. C'est la répétition de. C'est la répétition qui fait qu'on intègre au fur et à mesure ça. Et. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, ce que je... Si des auditeurs entendre pour la première fois ce que je dis, bon, ça paraît un peu difficile même, hein, ça paraît vraiment difficile même. Mais je sais que des participants à nos stages, certains sont venus plusieurs fois, des personnes sont venues plus de 10 fois. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ils progressent tout le temps. Donc ce n'est pas un apprentissage livresque, on n'a pas une théorie à apprendre. C'est l'intégrer et le vivre. C'est ça qui est important. Donc après, ça ne s'explique plus, c'est le vivre. Hein, voilà.
D'accord.
Voilà. C'est...
Souvent aussi, des fois, on nous parle de 21 jours et de 40 jours, donc notamment 21 jours pour ancrer une habitude et 40 oui. jours pour ancrer dans la matière. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Est-ce qu'il y a une limite de jours où on.
Ah. Oui, c'est intéressant, mais je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que pour entrer, comment on pourrait dire entrer en spiritualité, mais on ne peut pas dire ça, puisque je vais vous dire, tout le monde, chaque être sur Terre est en train de suivre un chemin spirituel, chacun à sa manière, chacun son chemin. Alors après, bien sûr, on peut aussi venir à nos stages, il n'y a pas que les nôtres, bien entendu. Et puis suivre un chemin plus spécifique, s'y tenir, parce que c'est important de s'y tenir. Ah oui, ça c'est important de souligner. Si des gens voulaient, étaient intéressés par approfondir ce que je suis en train de dire dans nos stages, par exemple. Alors oui, il est très important de ne faire que ça pendant, je dis un mois, par exemple. Bon, ça peut être 40 jours, bien sûr. Un certain temps, disons. Il est très important de ne pas suivre d'autres chemins parallèlement. Ce n'est pas une connaissance livresque. On n'a rien à apprendre, là. On a à intégrer. pour ça que, quel que soit d'ailleurs le chemin spirituel, hein, je dis la même chose, il y a d'autres chemins spirituels auxquels que j'ai fréquenté, que j'ai suivi, et bien c'est vrai que je les ai suivis pendant plusieurs mois. Et puis bon, ils m'ont un peu moins intéressé, j'en ai suivi un autre, pourquoi pas, hein. Maintenant j'en suis là et ça fait des années. Mais il est bon de ne faire que ça pendant un certain temps et de ne pas passer comme ça du coq à l'âne, comme d'une formation à une autre formation. Ce n'est pas une formation, ça. On apprend, on n'a rien à apprendre en fait, mais à intégrer et à vivre, oui, c'est ça. Alors, voilà, ce que je peux répondre là-dessus, est-ce qu'il faut 20 jours, 40 jours C'est difficile à répondre. Moi, quand j'ai connu ça avec mon épouse, on a connu ça en même temps. On était très intrigués, mais en France, on n'en parlait pas du tout, parce que c'était très très peu connu, même presque pas connu. Et c'est nous qui l'avons fait connaître au début. Hein. On a fait les premières conférences, les premiers stages. Disons qu'il nous a fallu un an, mais il n'y avait personne pour nous guider. Hein. Donc on a cherché, et puis on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, et voilà. Donc je ne peux pas vous dire. Maintenant, ceux qui viennent faire nos stages, quand ils ont fait 2 jours, ils ont fait un grand pas en avant. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il faut continuer. Hein. Voilà. Alors après, le nombre de jours, c'est impossible à dire. Chacun le voit, chacun le sent comme il le sent. Et voilà, chacun a son propre chemin, vous savez.
Oui.
C'est difficile à dire, ça.
Il y a, comme on dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin.
Pardon, j'ai pas entendu.
Oui, je disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin de toute façon.
Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Alors, sûrement pas, non, non. Sûrement pas, sûrement pas.
Alors, par rapport à l'ego, parce que souvent, des fois, dans d'autres enseignements spirituels, on entend qu'il faut faire la chasse à l'ego et l'éliminer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à...
Alors, la chasse à l'ego. Mais l'ego est très utile. Il ne faut pas le chasser, l'ego. On en a besoin tous les jours. Alors l'ego, c'est, moi je le définis comme ça, l'ego c'est une création du mental. Hein. Pour moi c'est une création du mental. Alors bien sûr que je mets un petit peu dans la même enveloppe le mental, l'ego, le corps, mais le corps physique, mais le corps mental, le corps éthérique, le corps émotionnel, je mets ça dans la même enveloppe. Tout ça fait partie d'une seule entité, quoi, que je vais appeler... Tantôt le mental, tantôt l'ego, tantôt le corps. Hein. Et à part ça, il y a ben, la partie spirituelle. Alors on va la dire, on va l'appeler l'âme, on va l'appeler le nom qu'on veut. Ce n'est pas un problème. On va l'appeler mon moi supérieur, on va l'appeler l'être supérieur, on va l'appeler mon ange, d'autres vont l'appeler... Bref, peu importe. Hein, moi je l'appelle mon âme tout simplement. J'aime bien ce mot-là. Ça veut dire que, en fait... dans la vie, eh bien, dans la vie de tous les jours, si on prend garde à ce qui se passe, on prend bien garde à ce qui se passe, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, les actions qu'on mène, les décisions qu'on prend, ben, si on fait bien attention, eh bien, qu'est-ce qui prend les décisions? C'est toujours l'ego ou le mental. Toujours. Presque toujours. En fait, presque toujours. De temps en temps, l'homme... Quand on lui laisse son mot à dire, alors elle va dire quelque chose. Mais souvent, on ne l'écoute pas et on écoute le mental. C'est pour ça qu'on ne réussit jamais ce qu'on aimerait réussir. Parce que c'est le mental qui nous y amène. Et le mental nous amène droit dans le mur quand il s'agit de diriger notre vie. En revanche, le mental ou l'ego est très utile pour faire notre métier. Pour faire le travail au quotidien, pour faire nos additions, pour faire notre comptabilité, pour construire nos maisons. Très utile, le mental. Mais la difficulté, c'est de savoir au quotidien, quand je dois prendre une décision, qui est-ce qui a pris la décision? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est mon âme? Ah, ça c'est la grande question. Ben oui, c'est ça la grande question. J'ai l'habitude de... Enfin, j'ai l'habitude. J'écoute beaucoup Emilio Carrillo, qui est un Espagnol, un enseignant spirituel fabuleux. Et lui, il était ingénieur, donc il a un mental surdimensionné. Hein. Il sait de quoi il parle quand il parle du mental. Eh bien, lui, il dit une chose, et je l'avais écrit d'ailleurs plusieurs fois. Il dit, regardez, notre mental ou notre ego, c'est notre voiture. Notre corps, c'est notre voiture. Et ça, tout le monde le dit. Hein,
oui.
Et puis, il y a la voiture et le conducteur. Mais quand vous prenez votre voiture, par exemple, imaginez, par exemple, là, Cédric, ce soir, vous allez prendre votre voiture et puis vous avez décidé d'aller. D'ailleurs, je ne sais pas où vous habitez en ce moment, c'est près de Bordeaux, je crois, je ne sais plus.
Oui, c'est ça.
Bon, vous décidez d'aller à Bordeaux, par exemple. Vous rentrez dans la voiture, puis la voiture vous dit non, 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 on va aller à Agen. Ben, vous dites, mais non, j'ai décidé d'aller à Bordeaux. Et la voiture vous dit non, 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 on va à Agen. Ben, qu'est-ce que vous faites là? Mais vous savez ce qui se passe dans la vie, en général? Ben, on suit les conseils de la voiture. Et on va à Agen, alors qu'on avait décidé d'aller à Bordeaux. Ben, c'est extraordinaire, ça, quand même, d'écouter sa voiture. Mais en réalité, nous sommes le conducteur. C'est-à-dire, le conducteur, pour moi, c'est l'âme. Mais on l'écoute rarement. On l'écoute rarement. Quand il s'agit de prendre une décision importante, choisir une maison, acheter une maison, prendre une affaire, choisir un emploi, qui on écoute?
Oui.
Alors, de temps en temps, bien sûr, on fait le bon choix. Mais quand on a fait un bon choix et qui perdure comme ça, là, on est sûr que c'est son âme qu'on a écouté. Mais on l'a fait comme ça. Ben, quand on étudie la spiritualité, c'est ça qu'on arrive à, comment dire, à développer le discernement. Un discernement qui va nous permettre de savoir qui a dit ça, qui a décidé, qui parle. Qui parle? Mon ego ou mon âme? Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Par exemple, mais il y a des indices, par exemple. Quand vous commencez une phrase par « je veux »,« je désire », »,« je souhaite », alors là, vous pouvez être sûr, c'est votre ego qui parle. Et voilà. Alors vous allez me dire, mais dans la vie, il faut bien qu'on veuille des choses. Mais je vais vous dire, quand on suit un chemin spirituel comme nous le suivons, eh bien, je vais dire exactement le contraire. Dans la vie, moi, tous les matins, je me lève et je suis persuadé que je ne veux rien. C'est bizarre, hein, de dire ça. Je suis sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais je vous assure que ne voulant rien, c'est comme ça que j'ai tout. J'ai exactement ce qu'il me faut. Parce que je ne recherche rien. Le matin, quand je me lève, je ne recherche rien. J'ai des rendez-vous. Quand un rendez-vous s'annule, je suis dans l'acceptation, il n'y a rien qui ressort de moi. Hop, il s'annule. Quand quelque chose... Je suis toujours dans l'acceptation. Sans jugement. Et j'attends. Dans un parfait lâcher prise. Mais je peux vous dire que dans notre vie... Alors, je ne peux pas vous dire que c'est à 100%, hein, parce que, je vous l'ai dit, nous sommes des humains, et de temps en temps,
oui.
On se trompe un peu. Ça arrive. Mais généralement, dans notre vie, il arrive exactement ce qui doit arriver.
Okay, parce que,
et je vous assure, c'est très agréable.
Parce que quelque part, même si on se trompe, quelque part, c'est une leçon aussi.
Alors, bien sûr, mais quand on se trompe, il faut vite prendre conscience de ça. Il y a des gens qui se trompent, mais beaucoup de gens. Par exemple, je ne sais pas, quand on veut tellement fort quelque chose, on dépense une énergie folle à aller au bout de ce qu'on veut. Mais si, regardez dans votre vie, si ça vous est arrivé. Regardez dans votre environnement, quand on a des gens comme ça qui ont une volonté très forte. Ils y arrivent, hein, ils y arrivent à vouloir ce qu'ils veulent. Mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'en fait, ben, ce n'était pas ça. Il y a peut-être une catastrophe qui est arrivée. Quelque chose qui a fait dévier leur chemin. Hein. Parce qu'on doit aller toujours là où on doit aller. D'accord. On doit aller toujours. Notre âme, de toute façon, nous y mène tout le temps. Et c'est notre ego qui nous fait aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oui. Il nous fait perdre beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, le but du jeu, c'est justement de faire taire cet ego quand il s'agit de notre vie. Quand il s'agit de travailler, si vous êtes ingénieur, si vous êtes, je ne sais pas, n'importe quel métier, votre ego, vous en avez besoin pour fabriquer, pour faire des choses. C'est formidable. Et d'ailleurs, il a un potentiel fabuleux, le mental. Fabuleux. Mais dès qu'il s'agit de diriger votre vie, là, il doit se taire. Et il faut lui dire, tais-toi, reste à ta place. Reste à ta place.
D'accord. Alors, justement, là, je viens de recevoir quelques questions. Question de Andy qui demande, comment peut-on contrôler l'ego?
Ah, comment peut-on contrôler l'ego? Ah ben, c'est pas facile, c'est un entraînement de tous les jours. Hein. C'est un entraînement de tous les jours. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion au bout d'un certain temps de pratique hein, dans ce chemin que nous avons choisi avec mon épouse. Et c'est vrai que... Mais il m'arrive de me tromper. Hein, il m'arrive de... Mais c'est de plus en plus rarement. De plus en plus rarement. Mais il m'arrive encore de me tromper. Comment arriver à maîtriser son ego? En fait, ce n'est pas maîtriser son ego. On n'a pas à fournir un effort pour ça. La seule chose qui compte, c'est d'écouter son âme, d'écouter son moi supérieur. C'est ça qui est important. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans la vie, c'est toujours comme ça. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir quelque chose, il s'agit d'aller vers ce quoi, vers ce qui vous attire. Hein. Et là, c'est pareil. On n'a pas à combattre l'ego, pas du tout. L'ego, on en a besoin. Donc, on n'a pas à le combattre. Tant qu'on est sur Terre, on en a besoin. Quand on partira de l'autre côté, on n'en aura plus besoin. Là, il n'y a aucun problème. Mais tant qu'on est de ce côté-là, dans cette incarnation, on a fortement, tous les jours, besoin de son ego. Mais on a besoin qu'il reste à sa place, pas plus. Voilà. Il doit rester à sa place. Et voilà, et c'est un travail de tous les jours, exercer son discernement. Voilà, c'est ça le discernement. Il faut que c'est un travail de tous les jours, écouter son âme. Et vous savez, notre âme nous parle à travers mille petites choses de la vie. Mille petites choses de la vie. Par exemple, ouais, vous vous dirigez, vous avez un rendez-vous, par exemple. Bon, alors vous êtes en voiture, vous ne trouvez pas. Alors, premier obstacle, par exemple, la voiture ne démarre pas. Bon, elle démarre, enfin. Vous commencez à partir. Et puis, il y a un autre obstacle qui est là, et qui vous fait dévier. Là, ça vous fait déjà deux indices. Et à mon avis, à deux indices, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que je dois aller à ce rendez-vous? Oui, déjà là. Parce que l'âme vous a envoyé deux petits messages. C'est toujours un message. C'est toujours un message. C'est toujours un langage de votre âme.
C'est ce qu'on peut appeler les synchronicités.
C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Mais tout est synchronicité. Tout est synchronicité. Tout. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'éveil. Dans la joie, dans le plaisir. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Et regardez votre vie au quotidien. Tout ce qui se passe. Et là, c'est magnifique parce que vous allez... Mais vous allez découvrir tout un monde, tout un monde. C'est-à-dire que quand on se rend compte de ça, on se dit, mais comment j'ai vécu jusque-là, comme un aveugle, comme un sourd à tout ce qu'on me disait. Je vous assure. Là, il faut ouvrir les yeux. Il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout, de tout, de tout. Je vous assure, c'est ça. C'est juste ça. Donc, c'est un travail de tous les jours. Et on n'a pas à se préoccuper de l'ego, vous comprenez? On n'a plus à se préoccuper de l'ego. Voilà. On a juste à se préoccuper de ce qui se passe autour de soi. Les synchronicités, mais dès que vous vous levez le matin, regardez autour de vous, les synchronicités sont là. Il en arrive. Voilà. Il en arrive. Alors, après, c'est votre propre discernement qui va... Vous donnez la clé, vous donnez la clé du langage. Hein. Et après, vous allez pouvoir carrément converser avec votre âme. C'est une discussion qu'on peut avoir quasi carrément. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, il faut vous exercer. Il faut s'exercer. Et bien sûr qu'on ne peut pas s'exercer si on est dans le jugement. Non. Parce que là, c'est le mental qui prend le dessus. Si vous êtes dans la non-acceptation, c'est-à-dire vous êtes dans le combat, là, vous ne voyez rien. Vous êtes aveuglé par la colère. Là, vous ne voyez rien du tout. Votre âme vous parle, mais c'est comme si c'était dans le brouillard. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas, être responsable à 100%, être dans l'acceptation, le non-jugement, la gratitude et le lâcher-prise. Si vous vivez là-dedans ces cinq étapes que j'ai nommées, mais que j'écris depuis longtemps, vous allez y arriver sans problème. Sans problème. Voilà.
D'accord. Alors, autre question de Andy qui demande « Que peut apporter la spiritualité à une personne dont l'esprit est fermé ?»
D'abord, on n'a pas assez à en préoccuper. Vous savez, l'important dans la vie, c'est se préoccuper de soi-même. Et moi-même, dans mon environnement, des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'aime bien, que ce soit dans la famille, parmi les amis, mais qui sont fermés à toute forme de spiritualité. Ça n'empêche pas que je les aime beaucoup, ça n'empêche pas du tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je vais vous dire, rien. Juste les aimer. Juste les aimer, parce qu'on ne peut rien pour eux. On ne peut rien. Mais on peut pour soi, ça oui. On peut tout pour soi, tout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On ne peut rien pour les autres. N'essayez pas de changer les autres, c'est impossible. N'essayez pas. En revanche, si vous pouvez, mais à partir du moment où vous pouvez vous changer vous-même, à ce moment-là, les autres, il y aura des répercussions sur les autres. Donc n'essayez pas de les changer, changez-vous vous-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais ça, c'est. Tous les courants spirituels vont vous dire la même chose. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Changez-vous vous-même. Puis les autres, contentez-vous de les aimer, ce qui est pas mal déjà.
Oui. Alors, donc, vous êtes en train d'écouter l'émission Spiritualité en question avec Jean Gracier, donc une émission mensuelle. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme on dit, hein, sur le www.radioterrazen.net en cliquant sur le bouton « Poser une question ». Donc Andy a posé une autre question qui dit « Ces mille choses sont représentées par nos idées aussi ». Donc je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
Cédric, j'ai pas très bien compris, c'est un peu haché.
Ah, je disais donc une question de Andy qui oui. disait « Ces mille choses sont représentées par nos idées aussi ».
Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette question? Ces mille choses sont représentées par nos idées aussi.
Oui, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, je ne sais pas si je vais répondre juste, là, parce que je ne crois pas avoir bien compris. De toute façon, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que tout ce que je dis, tout ce que je peux dire, et tout ce qu'on peut entendre par d'autres courants spirituels qui vont dire des choses un peu différentes, mais souvent un peu les mêmes quand même, eh bien en fait, on l'a à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir. Si on est honnête avec soi-même, eh bien on va s'apercevoir que ça, on l'a à l'intérieur. C'est juste une redécouverte. C'est juste une redécouverte. Voilà, donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, parce que je ne crois pas l'avoir bien comprise, mais ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, quoi. C'est ce qui nous est arrivé quand on a découvert tout ça. C'est vrai qu'il y a dans ce que j'ai déjà dit, il y a pas mal de choses que, quand je les ai découvertes, je me disais, mais ça, je le sais déjà. Je sentais que c'était ça, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, je ne le formulais pas auparavant. Je les formule mieux maintenant parce que je les ai apprises et surtout je les ai vécues, je les vis au jour au quotidien. Mais c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur. Même pour ceux pour qui on pense qu'en fait ils s'en sont très éloignés. Ils ne sont pas si éloignés que ça. Ils n'en sont pas si éloignés que ça, figurez-vous. Mais bon, chacun le vit à sa manière et chacun le découvrira. Hein. Chacun son chemin.
D'accord. Alors, j'attends que d'autres personnes posent des questions. Donc, Olen dit que les autres n'existent pas. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, oui. C'est le docteur Len, par qui nous avons appris pas mal de choses, parce qu'on a beaucoup, beaucoup écouté ses vidéos, ses conférences. Le docteur Len, lui, il dit les autres n'existent pas. Alors, bien sûr, il dit ça sous forme de boutade, un petit peu. Et en fait, il a bien raison. Parce que dit cette philosophie? C'est que quand je vois quelqu'un, quand je vois quelque chose qui me dérange chez une personne, quelque chose qui m'agace, quand je vois quelque chose qui m'horrifie, je peux continuer comme ça, eh bien, je me dis que si je vois quelque chose qui m'agace chez cette personne, c'est que je l'ai à l'intérieur. C'est que je l'ai. J'ai cette chose qui m'agace à l'intérieur. Si je vois quelqu'un qui est de mauvaise foi, par exemple, et je me dis, oh là là, c'est une fille de mauvaise foi, et si on me dit, mais tu l'as à l'intérieur, je me dis, mais non, moi, je ne suis pas de mauvaise foi. En fait, peut-être que je ne suis pas de mauvaise foi, mais cette mémoire est à l'intérieur. Ça veut dire que cette mémoire est à l'intérieur, je ne savais pas que j'avais cette mémoire de mauvaise foi. Elle s'est réactivée et m'a présenté une personne de mauvaise foi pour que je nettoie cette mémoire. Donc, il faut bien le comprendre à partir de cette idée-là. Tout ce qui m'agace à l'extérieur, c'est que je l'ai à l'intérieur. Ça veut dire que celui qui est en face de moi, en fait, il vient juste me montrer ce que j'ai à nettoyer. Il vient juste me montrer ce que j'ai à corriger en moi. Mais lui, en fait, n'existe pas. Il est juste passé comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Oui.
C'est-à-dire que quand on est dans cette philosophie, cette spiritualité, c'est que, en fait, on dit, il n'y a que moi qui existe. Tout à l'heure, je disais, on ne peut pas changer les autres. Non, on ne peut pas les changer. Mais par contre, si je m'apporte la paix en moi, la paix va rejaillir à l'extérieur. Si je suis dans l'agressivité, je vais attirer à moi des gens agressifs. Si je balaye toute agressivité et que je m'apporte la sérénité, le calme, la paix, je ne connaîtrai plus de gens agressifs. Ils vont disparaître de mon environnement. Donc je crée exactement ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je les crée. Donc toute personne qui passe devant moi, je sais que c'est mes mémoires, que ce sont mes mémoires qui se sont réactivées, qui ont créé cette personne pour me montrer telle ou telle chose, qui m'agace ou qui me met en joie ou qui me fait plaisir. Hein ? Si par exemple vous êtes une actrice ou un acteur de cinéma, vous plaît parce qu'il a telle qualité, ben, vous pouvez vous dire que cette qualité est en vous. Sinon vous ne l'auriez pas vue à l'extérieur. On ne peut voir à l'extérieur que ce qu'on a à l'intérieur. Ça c'est une notion très importante. Hein. Et c'est pourquoi le docteur Len dit les autres n'existent pas. Mais les autres n'existent que par l'activation de mes mémoires. Ouais. Et ça c'est d'une importance capitale. Des scientifiques, je ne me souviens plus son nom, là, c'est dommage, un scientifique bien connu, qui est physicien et qui a étudié la physique quantique, et qui a joué d'ailleurs dans le film Le Secret, qui a participé au livre Do You Know, What the Bleep Do We Know, bien connu. Oui, bon, oui. Ce physicien a fait une expérience dans les années 80. Et regardez comme c'est important. Il a pu, avec des fonds américains, alors là, bien sûr qu'il avait, il a pu avoir des fonds, il a pu réunir un millier de personnes, des gens qui savaient méditer et être en paix. Voilà. Donc c'est ça le critère principal. Et au moment de la guerre au Liban, dans les années 80, quand Israël a attaqué le Liban, la Syrie, que ça, vraiment, ça guerroyait très fort là-bas, il a mis ce millier de personnes près de la frontière, tout près du plus fort des batailles. Il leur a demandé de méditer. Mais presque instantanément, la guerre a été repoussée et dans un rayon de 50 km, il n'y avait plus un coup de feu. La paix s'était installée. Vous voyez ? C'est extraordinaire, non ?
Oui,
tout à fait. Il a mené ses expériences de façon très scientifique. Il a publié ses conclusions dans un journal scientifique américain, dont j'ai oublié le nom, mais que je peux retrouver très facilement, parce que je l'ai dans mon site, et j'en ai parlé dans mon site. Ce qui prouve. Alors après, il a fait des expériences de tout ordre, hein. Il a demander à la moitié d'une la moitié des gens de faire l'habitation aux autres noms, etc. Il a observé. Donc ses conclusions, c'est que tout simplement, hein, c'est ce que je dis, si on arrive à être en paix, en face de nous, il n'y a que des gens en paix. On crée vraiment son environnement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arriver comme ça, quelqu'un par hasard. Non, il n'arrive personne par hasard dans votre environnement. C'est impossible. Parce que s'il arrive quelqu'un qui vous crée un désagrément, ben c'est que vous avez des mémoires qu'il faut nettoyer et qui ont créé cela. C'est ce qui amène le docteur Lane à dire, les autres n'existent pas, il n'y a que moi qui existe. Il n'y a que moi qui crée mon environnement. Les autres ne sont en aucun cas responsables de ce qui m'arrive. Oui?
Oui. C'est un effet miroir en fait.
Pardon?
C'est un effet miroir.
J'ai pas compris.
Je disais, c'est un effet miroir.
C'est un effet miroir, on va dire. Oui. Oui, les autres sont mon propre reflet, on va le dire comme ça. Mais là, je vous l'ai expliqué. Vous comprenez? Voilà, c'est fabuleux quand même de comprendre ça.
Oui, tout
Bien
à
sûr,
fait.
les autres sont notre propre reflet, mais là, on l'explique. Hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors, on dit à apporter une précision par rapport à sa question précédente. En fait, c'était au sujet de l'âme. Ces mille choses, sont aussi nos idées.
Oui, au sujet de l'âme.
Oui, je pense que c'est la précision par rapport, à la question de tout à l'heure qui disait, ces mille choses sont aussi nos idées.
Alors oui, je comprends toujours pas bien la question. Parce que quelles mille choses, quelles sont ces choses dont on parle, sont aussi nos idées. Je vois pas bien. Bon, faudrait que la personne formule mieux sa question.
D'accord, donc si Andy nous écoute encore actuellement, est-ce que ce serait possible de reformuler bien la question? Voilà.
Oui, de la reformuler plus. Oui, parce que les mille choses, quelles choses en question? Ouais.
Oui, j'ai pas trop compris non plus.
Désolé, je suis désolé. Voilà.
Voilà. Pono, je suis Pono.
Oui, de suivre un chemin spirituel ne rend pas son mental surdéveloppé. Finalement, le mien, il est un peu comme tout le monde. Voilà, je comprends pas tout, quoi.
On est humain avant tout.
Mais voilà, je suis un humain comme tous les autres.
Ah, voilà, donc... Ah non. Non, c'est juste Andy, en fait, qui nous dit, je vous remercie pour toutes vos réponses. Elles m'ont permis de mieux comprendre l'ensemble du sujet. Merci à tous. Continuez ainsi et passez une bonne fin de soirée.
Ah, mais c'est gentil. Merci, merci, merci. C'est
Voilà,
gentil.
donc voilà, bah, merci Andy de ce retour. Et on espère que d'autres personnes vous posez vos questions là pour les quelques minutes qui restent. Hein.
Oui.
Et je rappelle aussi que cette émission est donc mensuelle et elle est prévue tous les derniers vendredis du mois. Donc retenez bien ça pour vous en rappeler.
Eh bien, c'est parfait. Oui.
Voilà. Alors, je vais essayer de trouver une autre petite question si d'autres n'arrivent pas pour conclure donc, cette première émission. Alors, on parlait tout à l'heure de nettoyer. Est-ce que nettoyer, c'est une forme de prière?
Alors, nettoyer, c'est une forme de prière, bien sûr. Bien sûr, c'est une forme de prière. Parce que quand on nettoie, quand on dit les quelques mots que j'ai cités tout à l'heure, si je suis désolé, parce que je ne savais pas que j'avais ces prières, à qui on s'adresse? Mais on s'adresse à son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, pour les Hawaïens, c'est le subconscient. C'est là où sont nichées toutes les mémoires, toutes les croyances. C'est l'enfant intérieur qui détient tout ça. Mais on s'adresse aussi à son âme, bien sûr, hein, à son être supérieur, à son moi supérieur, à son... Bon, on va l'appeler comme on veut. Donc c'est une forme de prière, bien sûr. Quand je dis je te demande pardon, je te demande pardon à toi, mon âme, mais je me demande pardon. Hein. Eh oui. Alors les Hawaïens... Quand parce qu'en fait, bon, je ne l'ai pas dit parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais c'était un rituel de pardon. Hein, le Ho'oponopono, c'était un rituel de pardon. Et bien sûr que quand ils pratiquaient ce pardon au niveau d'une famille, d'une communauté, eh bien, il y avait des temps d'explication, des temps de silence et puis des prières. Hein. Et c'est ça qui faisait que chacun nettoyait en soi les mémoires qui avaient créé le différent, le problème, etc., qui était survenu quelque temps auparavant. Voilà. Donc, voilà. Donc là, il y avait vraiment des prières. Mais nettoyer, c'est bien sûr, c'est une forme de prière, bien entendu. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai remis dans ce livre-là la prière, une prière très puissante de Morna Simeona. C'est Morna Simeona qui avait réécrit en quelque sorte ce processus spirituel au Ho'oponopono. Et cette prière, je la recommande à tous ceux qui veulent nettoyer ses propres mémoires et entreprendre ce chemin spirituel. Cette mémoire est très puissante. Donc, elle est dans le livre. Cédric, vous devez l'avoir retrouvée, je pense. Hein.
Oui.
Elle est dans votre livre que nous avons écrit aussi, dans le premier Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. Je l'ai écrite aussi. Je l'ai reproduite dans d'autres livres, je ne sais plus lesquels.
D'accord. Bon.
Mais nettoyer, bien sûr, c'est une prière. Bien sûr, c'est une prière. Et qui s'adresse à soi-même, en fait. C'est ça la différence avec les religions. On ne s'adresse pas à quelqu'un d'extérieur. On s'adresse... Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Donc, je m'adresse à mon être spirituel. Je m'adresse à mon âme. Je m'adresse... Hein, voilà. Donc, bien sûr. Bien sûr.
D'accord. Alors, voilà. Justement, Andy nous a entendu. Donc, elle a approfondi sa question. Donc, en fait, sa question de début, c'était « L'âme nous parle aussi à travers les idées. »
Oui. Alors, il faut s'en méfier, les idées, parce que les idées sont formulées par des mots. Et les idées, souvent, viennent des pensées. Et les pensées, ben, souvent, viennent des mémoires. Ce qui fait que tout ça est un peu faussé, si on peut le dire. Hein. Faut faire attention. Mais pourquoi pas? Je ne peux pas être formel là-dessus. Une idée qui vient, mais il faut s'en méfier, quoi, quand même. Il faut s'en méfier. Une idée, j'ai peur que, bien souvent, elle vienne du mental. Hein. Mais pas toujours. Là aussi, il faut exercer son discernement. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Notre âme nous parle de toutes les manières qu'elle peut. De toutes les manières qu'elle peut. Si vous êtes préoccupé par quelque chose, puis vous prenez votre journal, le premier mot sur lequel vous allez tomber, eh bien ce mot-là va vous donner l'explication à votre problème du moment, peut-être. Vous voyez, c'est les synchronicités, c'est de tout ordre, quoi. Hein, de tout ordre.
Hein. D'accord.
Dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, bref. Voilà. Donc il y a des réponses. Après, dans les idées, moi j'ai peur que souvent ça provienne du mental. Alors,
d'accord.
L'idée, voilà. Donc après, à chacun d'exercer son discernement, puis de voir si c'est ça. Hein. Donc il faut expérimenter. Hein. Il faut beaucoup expérimenter.
Hein. D'accord. Bon, c'est terminé donc, pour ce soir, pour cette toute première émission de Spiritualité en question avec Jean Gracier. Donc merci pour cette première émission, Jean.
Et, merci à vous, Cédric. Et... Bon, je suis très heureux, très content si des gens ont pu nous écouter.
Voilà, et puis on se donne rendez-vous donc dans un mois.
Dans un mois.
Le dernier vendredi du mois.
Entendu.
Voilà,
entendu.
Et puis sinon, en attendant, vous pouvez retrouver le livre « Mieux comprendre Ho'oponopono, vos questions et les réponses » de Jean Gracier directement sur le site Éveil et Santé, c'est bien ça.
Alors, n'oubliez pas de rajouter qu'il est gratuit.
Oui, qu'il est gratuit.
Voilà. Il est gratuit. On peut le télécharger à partir du site Éveil et Santé, mais aussi à partir de l'autre site Merci, je t'aime. Mais voilà, on peut le trouver oui, très facilement.
Ouais. D'accord.
Et ben, alors, je le recommande chaudement. Hein, c'est pas parce que je l'ai écrit, mais parce qu'il me plaît bien. Et surtout qu'il est gratuit, donc il n'y a pas de problème.
Il faut en profiter. Voilà, bon, en tout cas merci et très bonne soirée et puis on se donne donc rendez-vous dans un mois.
Dans un mois, au revoir Cédric et merci.
Ouais. Au revoir. Donc on vous donne donc rendez-vous le mois prochain et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, belle soirée et à bientôt. Au revoir.